Parfait.
C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Youpi, c'est lundi et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et comme chaque lundi, on vous offre votre revue du web social sur un plateau. Je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et pour m'accompagner ce matin, j'ai le plaisir d'être avec monsieur Adjane Chélil. Salut Adjane.
Salut Thibaut, j'ai adoré ton Youpi. C'est lundi.
Ouais,
je pense que ça va devenir un hymne petit à petit. C'est youpi, c'est lundi.
Ouais, mais tu vois, je pense qu'il nous faut un jingle spécial là-dessus.
Ah, ok, d'accord.
Peut-être une mission pour la trêve hivernale.
On va voir ça. On va essayer de trouver un truc cool.
Allez, mon grand, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as de beau dans ta besace?
Je commence.
Ouais.
Et ben moi, je commence avec une offre de job pour tous les community managers et social media managers du monde. Écoutez, je crois que je vous ai trouvé un job un peu parfait, puisque c'est le poste de boss des réseaux sociaux de la reine d'Angleterre. Vous pouvez gérer 16 millions d'abonnés sur Twitter, Instagram et Facebook. Et bah, figurez-vous que la reine d'Angleterre, pour recruter son chef des réseaux sociaux, et bah, elle a utilisé une annonce LinkedIn. Et donc, ouais, elle l'a carrément postée sur LinkedIn pour arriver à trouver...
La reine en personne.
La reine en personne elle-même. Ouais, elle se sert hyper bien des ordinateurs. Moi qui la connais un peu,
elle est très branchée LinkedIn.
Ouais, en plus, elle adore Twitter moyen. LinkedIn, elle m'a dit, c'est le max. Et du coup, bah ouais, un salaire qui est quand même vraiment pas mal, si ça vous intéresse. C'est un tout petit peu en dessous de ce que je touche ici. C'est entre 45 000 et 50 000 livres par an.
Pas mal.
Soit entre 54 000 et 60 000 euros par an.
Est-ce que tu peux être un obli si tu fais du bon travail? Lord Chélil.
Ouais, je me demandais, est-ce que tu peux manger aussi à la table de la reine directement tous les midis? Je ne sais pas. Alors, en tout cas, c'est un temps plein, 37,5 heures. Moi, je trouve ça cool. J'avais envie de vous en parler parce que je me dis, s'il y a des mecs un peu en galère ou des nanas un peu en galère, n'hésitez pas, allez sur LinkedIn, répondez, on ne sait jamais. Vous allez peut-être avoir un job en or.
Allez, on met le lien vers cette annonce pour ceux qui veulent postuler. Allez, Instagram qui commence à déployer l'option Group Stories. Il s'agit donc de stories collaboratives. C'est une fonctionnalité qui ressemble vachement à l'option Group Stories de Facebook qui avait été déployée, souvenons-nous, c'était en octobre dernier. Et là, c'est un petit peu le même principe. On va pouvoir utiliser, créer un groupe. Ça, on peut déjà en direct message dans Instagram. Et là, en plus, communiquer sous la forme de stories et des stories collaboratives, c'est-à-dire être plusieurs à animer ce fil de stories. C'est assez intéressant. Et surtout, c'est un pas de plus de la part d'Instagram vers direct message. On se souvient que en octobre, Instagram a lancé Threads, qui est donc une application distincte d'Instagram, qui est dédiée à l'application de messagerie d'Insta. Et on le voit qu'il y a un gros tournant et que c'est un gros sujet pour Instagram qui ajoute petit à petit des fonctionnalités autour de ce sujet de la messagerie directe. L'objectif étant pour eux de maximiser l'utilisation de cette messagerie et notamment les messageries de groupe en stimulant l'engagement autour de cet outil avec des nouvelles fonctionnalités. C'est quand même très différent de ce qu'on peut voir dans les groupes Facebook, où là on peut être des milliers, voire peut-être même des dizaines de milliers. Là, sur Instagram, rappelons-le, un groupe Insta, c'est maximum 32 personnes. Donc, on est quand même sur de la micro-communauté. C'est intéressant. Faudrait voir ce que ça peut donner comme idée pour des marketeurs. Peut-être qu'il y a des choses à faire en UGC autour de ce sujet-là. Voilà. En tout cas, fonctionnalité en cours de déploiement en ce moment. On se fera un plaisir de tester ça, évidemment.
À suivre. Moi, j'ai une autre news assez cool. C'est que Twitter convertit enfin les live photos iPhone en GIF directement. Et ça, c'est quand même super cool. Donc, vous connaissez le principe des live photos que vous pouvez réaliser avec votre iPhone. Vous prenez une photo et puis, en fait, votre appareil va enregistrer 1,5 secondes avant et 1,5 secondes après la photo pour avoir une espèce de micro-vidéo de 3 secondes.
Et ça a toujours été mystérieux. Pour moi, je ne comprends pas comment ils peuvent faire avant que tu appuies.
C'est le temps que lui prenne la photo. Donc en fait, toi, t'appuies, il doit y avoir 1,5 seconde, je pense, avant qu'il bloque l'image. Et voilà, et du coup, tu te retrouves avec ce petit temps avant et après. Et maintenant, Twitter prend en charge ce format live photo. C'est-à-dire que quand vous allez charger une photo qui est une live photo sur Twitter, lui, il va la proposer directement en format GIF avec les quelques secondes d'avant et d'après. Il suffira pour ça d'activer l'option GIF pour que votre image soit en live photo, du coup, et ça va le faire. Donc maintenant, bah, plus d'excuses, tout le monde peut faire ses propres GIFs.
Ouais, c'est assez cool. Et Twitter fait beaucoup d'annonces hein, ces derniers temps. Ah, parce ouais. Ils ont aussi annoncé qu'ils allaient arrêter de compresser les photos n'importe comment.
Oui, j'ai vu ça aussi.
Et ça, c'est une très bonne news quand même. Hein. C'est parce qu'on le sait, c'est comme ça depuis toujours sur Twitter. Tu balances une photo ou une vidéo et elle perd une tonne de détails et de qualité. Bref, ça finit par être une grosse bouse pixelisée. Hein.
Ouais.
Et ça, c'est assez ennuyeux quand on est créateur de contenu et du coup, objectivement, parfois, c'est un frein aussi à aller publier sur Twitter. Et ben, l'entreprise change enfin tout ça avec, à l'avenir, le Twitter qui va préserver la qualité des photos au format JPEG, notamment. Alors, il y a quelques conditions quand même. Hein. Il faut que ta photo elle fasse maximum 4096 pixels de côté,
normal.
Ce qui laisse quand même de la marge. Et puis, une résolution de 16 mégapixels max. Ouais, voilà, ça laisse 5 mégaoctets aussi hein, maximum sur une photo. Ça laisse quand même pas mal de marge sur de la création de photos. Et puis, ça permet peut-être à des créateurs de contenu, pourquoi pas même à des photographes, de enfin utiliser Twitter dans la meilleure des conditions.
Ouais, alors petit bémol encore, c'est que pour les miniatures, ils vont réduire le format quand même. Ça restera pas du JPEG. Mais dès qu'on cliquera sur la photo, elle sera en super bonne résolution.
T'avais d'autres choses sur Twitter.
Oui, moi j'avais autre chose sur Twitter. J'avais Twitter, y a eu une énorme annonce hein, de Jack Dorsey, le patron fondateur de Twitter, qui vient de lancer une petite bombe hein, tout simplement sur les plateformes. Il a déclaré « Twitter finance une petite équipe indépendante de 5 architectes, ingénieurs et designers open source pour développer un standard ouvert et décentralisé pour les médias sociaux. L'objectif est pour Twitter d'être à terme un client de ce standard. » En gros, il veut revenir à la base un peu d'Internet et à l'open source, c'est-à-dire que Twitter ne dictera plus les règles de sa plateforme entièrement, mais il fournira plutôt un cadre de base, qui est un code informatique public, que chacun pourra alors après aller modifier pour créer ou alors ajouter des choses sur ce code pour créer sa propre version de Twitter, en gros. C'est grâce, par exemple, à un cadre... Alors toi, tu t'y connais un petit peu plus que moi sur tout ce qui est code informatique, mais c'est grâce, par exemple, à ce type de cadre standardisé qu'un utilisateur Gmail peut envoyer un mail à un utilisateur Hotmail ou Orange. Ils utilisent ce même, en fait, les différentes boîtes mail utilisent le même cadre standardisé, mais après chacun le parfait comme il a envie. Et jusque là, les réseaux sociaux, c'est tout le contraire. C'est des écosystèmes qui sont propriétaires et fermés, hein, comme Facebook qui est né et qui a grandi comme ça. Et puis Twitter, lui, il deviendrait du coup complètement ouvert. Chacun pourrait créer sa propre interface Twitter avec plus ou moins ses propres règles, son propre algorithme pour savoir quel poste, comment il a envie que ça fonctionne. Flux. Voilà, donc il y a ça ouvre un champ des possibles assez extraordinaire.
Ouais, c'est intriguant hein, parce qu'on se demande comment du coup peut évoluer Twitter qui fournit en fait un espèce de framework de réseaux sociaux que ensuite tu pourrais adapter et créer ton propre Twitter en fait avec le même fonctionnement
exact.
Mais adapté pour ton usage.
Bah ouais, c'est ça qui est fou et on peut se demander du coup après comment Twitter va réussir l'entreprise elle-même à tirer un business model de tout ça, etc. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant et complètement à contre-pied de ce qu'on a sur les réseaux.
Intéressant
temps,
à suivre, sans
ouais,
doute à creuser
ça.
Comme sujet. Alors là, c'est tout autre chose. Hein. Ça se passe sur Facebook où là, effectivement, l'environnement est totalement clos ça se passe du côté de Facebook Watch. Facebook Watch qui n'a pas dit son dernier mot et qui annonce un partenariat avec une grosse chaîne de créateurs de contenu qui est plutôt connue du côté de YouTube. Alors, Facebook Watch, qu'est-ce que c'est ? C'est la partie vidéo de Facebook. Hein. Ils avaient annoncé ça en grande pompe il y a quelques mois en arrière avec l'opportunité pour eux, en tout cas l'objectif, d'aller chatouiller YouTube sur ce sujet. Facebook Watch a été lancé en 2017. Depuis, objectivement, c'est pas non plus une énorme réussite. Alors, aux États-Unis, il y a eu des programmes originaux qui ont été créés spécifiquement pour Facebook Watch dans l'objectif de faire revenir les créateurs de contenu, de faire venir les créateurs de contenu sur Facebook plutôt que sur YouTube, et puis aussi de garder des audiences. Et alors là, Facebook en France a fait un certain nombre de partenariats, et notamment le dernier en date avec le Golden Studio Golden qui va donc monter 4 programmes spécifiques sur YouTube, sur Facebook, tiens, quiproquo.
Voilà.
Faut dire que Golden Studio, c'est vraiment un studio de créateurs sur YouTube, hein. C'est même actuellement le deuxième studio français de création de contenu à destination des millennials, donc c'est vraiment une grosse maison. Alors qu'est-ce qu'ils vont monter ? Ils vont monter un programme qui s'appelle Fail, qui a pour objectif de confronter les artistes à leur plus gros échec. Ils vont monter Follower Game pour tester la relation d'un influenceur avec ses abonnés. Dans tes rêves, qui a pour objectif de réaliser tes rêves d'enfant. Et puis Meetup, qui va être présenté par l'humoriste LAG et qui devrait compléter la liste des nouveaux programmes. Donc, on le voit, hein, l'objectif pour Facebook, c'est d'aller reconquérir aussi peut-être ce cœur de cible qui est en train petit à petit de se barrer ou en tout cas d'être moins engagé avec la plateforme. Donc voilà, Facebook Watch en partenariat avec Studio Golden, sans doute à compter de 2020.
Bah oui, il y a un enjeu hein, pour Facebook, on le sait là-dessus, comme tu disais, ça peut être un levier d'arriver à développer Facebook Watch pour garder des utilisateurs, en tout cas, qui sont plutôt en fuite, les jeunes, sur sa plateforme. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile pour Facebook d'aller concurrencer YouTube. On sent qu'il y a quand même un vrai gap encore entre les deux, que Facebook Watch ne marche pas du tout aussi bien. Mais,
en tout cas, pas du tout le même usage.
Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, là, on se dit peut-être qu'avec un transfert aussi énorme entre YouTube et Facebook, peut-être que Facebook aura un mot plus important à dire en 2020. À suivre. Moi j'avais encore une news hein, j'allais parler de Facebook et son conseil de surveillance des contenus pour 2020. Facebook annonce doter un budget énorme de 130 millions de dollars pour son conseil de surveillance des contenus. Ce conseil de surveillance sera chargé de trancher sur les retraits des contenus et puis donnera des recommandations en termes de modération de manière un peu plus générale sur la plateforme. Ce comité devrait être indépendant avec un budget qui est censé durer hein, sur 6 ans, hein, c'est 130 millions de dollars. On peut se demander quand même comment il va être indépendant avec un budget qui vient totalement de Facebook. Mais à suivre, la réponse de Facebook là-dessus, c'est de dire qu'en fait, ces 130 millions de dollars vont être placés dans une fiducie pour séparer les biens du conseil de surveillance et les biens de Facebook. Mais bon, si tout l'argent vient de Facebook et que c'est la seule source budgétaire du conseil de surveillance, on a du mal à imaginer.
Et c'est quoi l'objectif exactement du conseil de surveillance de Facebook ?
Eh ben, cet objectif, c'est de justement trancher sur les retraits de contenu, donner des explications sur quels contenus on enlève et pourquoi on les enlève maintenant chez Facebook, discuter en termes de modération, qu'est-ce qui est autorisé à être publié sur Facebook, qu'est-ce qui ne l'est pas. On ne sait pas encore exactement qui va siéger dans ce conseil de surveillance, mais ce seraient des personnes qui seraient des anciens modérateurs, juges, avocats ou anciens journalistes. Donc voilà, après, ça reste encore un peu flou. En janvier 2020, on devra en savoir plus avec la nomination justement des personnes qui vont être à l'intérieur de ce conseil de surveillance, qui devrait être composé de 40 membres. Là où ça reste flou, c'est qu'en fonction des États, comme on le sait, il y a des systèmes juridiques différents avec des lois qui sont différentes. Et donc, on peut imaginer qu'on ne peut pas exactement dire la même chose de toute manière, de manière publique, en France par rapport aux États-Unis ou à l'Angleterre ou à l'Espagne ou l'Italie. Donc, il va falloir que ce comité de 40 personnes arrive tout seul à connaître les lois de tous les pays du monde où il y a Facebook pour savoir s'il peut...
Est-ce qu'on est d'accord pour dire que Facebook commence de plus en plus à ressembler aux Nations Unies ? Il y a un conseil de surveillance Facebook et maintenant, tous les pays vont devoir se mettre d'accord sur comment on traite tel ou tel contenu.
Il va peut-être y avoir un conseil de surveillance par pays bientôt.
Ah ouais, c'est hallucinant. Affaire à suivre là aussi là-dessus. Allez, moi je vais finir cette session de Youpi c'est lundi avec une campagne que j'aime beaucoup. C'est une campagne qui a été faite par Liebig qui a décidé de donner la soupe à ses trolls. Je m'explique. Il se trouve que Liebig, la marque de soupe industrielle, est en pleine mutation, hein, comme bien des marques actuellement. Historiquement, elle était considérée comme à peu près toutes les marques industrielles, hein, comme trop salée, trop riche, trop pleine d'additifs. Il se trouve qu'elle a changé et notamment elle a modifié sa recette pour passer à du 100% naturel. Yuka compatible, on va dire. Une raison à ça, c'est qu'elle a écouté ce que disaient ses consommateurs en ligne. Et nous, ça nous fait plaisir d'entendre ça, parce qu'on le sait, hein, y a beaucoup d'insights qui remontent des réseaux sociaux d'une marque. Et en l'occurrence, ils ont écouté les gens qui se plaignaient de la qualité intrinsèque des produits. Et du coup, pour mettre en avant ce changement, ils ont remercié les consommateurs qui y ont contribué. Et ils ont notamment démarré une opération qui s'appelle Eat Your Tweet. Je t'explique le principe, c'est qu'ils ont pris des tweetos qui avaient été négatifs, voire relativement agressifs vis-à-vis de la marque de soupe. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contacté ces tweetos-là et ils leur ont envoyé des échantillons de la nouvelle recette. Hein. C'est ce qu'on appelle globalement de la micro-influence, hein, un peu en reverse engineering, parce qu'ils l'ont fait, ils l'ont fait après. Sauf qu'il y avait un petit quelque chose en plus dans ce paquet, une petite dose d'insolence, on va dire, très Twitter. C'est que le Cotli contenait évidemment une brique de soupe, mais aussi un sachet de pâte Alphabet avec exactement les mêmes lettres que dans le tweet. Donc quand tu ouvres la boîte, tu as la brique avec la nouvelle recette et puis tu as une screen capture du tweet. Hein, donc chaque tweeto, ça a son propre paquet. Et puis une petite enveloppe dans laquelle tu retrouves toutes les lettres qui sont dans le tweet et que tu vas pouvoir mettre dans ta soupe. Je trouve ça très marrant. Et évidemment, du coup, la campagne s'appelle Eat Your Own Tweet. Voilà,
ça fonctionne super bien.
Très bonne idée.
Non, mais effectivement, très bonne activation. Et puis, et puis bravo à une marque qui écoute ses consommateurs en ligne. Hein,
exactement. Exactement. Voilà, les amis. Youpi, c'est lundi, c'est terminé. On se retrouve demain si on a oublié quelque chose. N'hésitez pas à venir nous en parler sur les réseaux sociaux.
@supernatif, sur Twitter, justement, sur Instagram, sur Facebook ou sur LinkedIn. Et puis, bien sûr, vous écoutez ce podcast, Le Super Daily, sur une plateforme de podcast. Donc, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire. Et surtout, parlez-en autour de vous.
Et puis, abonnez-vous. Les
oui,
amis
aussi, je le dis pas assez souvent.
Merci à vous tous, on vous donne rendez-vous dès demain. Salut.
Allez, ciao.